Les podcasts de l'Institut de France. L'entretien de la semaine. Rencontre avec un académicien.
Aujourd'hui, dans l'envie de savoir, préparez-vous à retomber en enfance, car nous allons parler du scénariste génial du petit Nicolas, d'Astérix, de Lucky Luke ou d'encore Is No Good. Et oui, René Goscinny est derrière tous ces personnages entrés dans l'histoire de la bande dessinée. Et si nous parlons de lui aujourd'hui, c'est parce que nous fêtons cette année, en 2026, les 100 ans de la naissance du scénariste. À cette occasion, l'Institut de France organise ce samedi 14 mars une grande fête de la BD. Et quelques jours avant l'événement, nous avons eu envie de vous parler d'Astérix, comme vous ne l'avez peut-être jamais entendu, à travers le regard d'un latiniste. Car derrière la potion magique et les sangliers, la série regorge aussi de références à l'Antiquité, à la langue latine et à la culture romaine. Alors pour nous aider à décrypter tout ça, nous recevons aujourd'hui le latiniste Marc Baratin. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Merci d'être dans le studio avec nous. On était très curieux d'avoir le regard d'un latiniste sur Astérix, parce que René Goscinny et son confrère Albert Uderzo, le dessinateur, ont choisi de placer l'intrigue d'Astérix en moins 50 avant Jésus-Christ. La toute première planche de la BD commence avec cette précision chronologique. Moins 50 avant Jésus-Christ, c'est un temps particulier de l'histoire, puisque la Gaule est alors sous domination romaine. Est-ce qu'en moins 50, il y avait encore des villages comme celui d'Astérix qui faisaient encore de la résistance face à l'envahisseur romain ?
En 50, non.
Non.
Il n'en restait plus. En 51, à la suite d'Alésia, il restait encore un certain nombre de populations gauloises qui ont essayé de continuer à résister, mais qui n'y sont pas parvenues. César les a écrasées avec d'ailleurs, il faut le dire, beaucoup de cruauté. Du coup, ça s'est arrêté. Donc en 50, il n'y en a plus. Non.
Et tous les prénoms d'Astérix finissent en X. C'est une référence au chef gaulois, comme Vercingétorix. Et du côté des adversaires, chez les Romains, c'est le suffixe us, qu'on voit partout, Caius, Brutus. Et puis Goscinny fait plein de jeux de mots. On peut retrouver d'autres noms comme Autofocus, Ballon de Baudrus. Ça, c'est un clin d'œil aux déclinaisons qu'on apprenait par cœur adolescent qui fait Goscinny. Pour ça.
Le clin d'œil alors, fonctionne très bien pour le latin. Pour le gaulois, non, parce que la finale rix de Vercingétorix est tout à fait particulière. En général, ils avaient des noms qui se terminaient en os, qui est le correspondant du us latin.
Ah, donc les chefs gaulois, leur nom ne finissait jamais en x. Vercingétorix.
Ça arrivait.
C'est plus une exception. Dans Astérix, les personnages, notamment les Romains, utilisent à tout bout de champ des formules toutes faites en latin. Ils sont un peu tournés en ridicule par Goscinny, ces Romains. Cette langue, elle apparaît un peu comme celle de la pédanterie, on peut dire ça.
Alors, c'est compliqué parce que l'utilisation du latin, la fonction du latin, si l'on peut dire, dans Astérix, d'abord, ça n'est pas une langue de communication. C'est une langue qui ne sert absolument pas à communiquer. Même les Romains ne communiquent pas entre eux en latin. Donc, c'est pas une langue de communication, ce qui est tout à fait particulier pour une langue. Mais c'est, en fait, une langue parodiée. C'est une langue constamment parodiée. Alors, il y a une partie qui ne l'est pas, c'est la partie couleur locale. Il y a effectivement une partie de couleur locale, c'est-à-dire vous avez des noms de lieux qui sont quelquefois d'ailleurs les noms de lieux
qui
authentiques,
ont vraiment existé.
Lutèce, Lugdunum, ou même Rome, tout simplement. Vous avez des noms romains comme Rome qui servent de couleur locale, mais en général, le latin est une langue parodiée, c'est-à-dire que c'est une langue qui est en fait réutilisée à des fins comiques. Alors, ce qui souligne la parodie, notamment, c'est le fait de parodier une autre bande dessinée, qui est la bande dessinée Barbe Rouge, de faire apparaître donc une équipe de pirates, dont le vieillard unijambiste et le grand noir, qui sont deux personnages qui énoncent très très volontiers des formules sentencieuses latines dans des moments complètement inadaptés, au moment où le bateau coule. Le vieil unijambiste a toujours une formule latine pour conclure en quelque sorte l'épisode de contact avec les Gaulois.
Pour les auditeurs qui ne connaissent pas Barbe Rouge, peut-être recontextualiser
C'est une bande dessinée de Charlier et Hubinon qui date de la même époque, qui sortait aussi dans Pilote. C'est-à-dire que vous avez à l'intérieur d'Astérix des allusions à une bande dessinée qui figurait dans une autre partie du journal. Et donc, avec tout l'effet comique que ça peut avoir, hein, de circuler à l'intérieur d'une bande dessinée à l'autre avec les mêmes personnages. Et donc, surgit de cette autre bande dessinée, vous avez le bateau des pirates qui fonctionne donc comme signe de parodie. Et c'est précisément à l'intérieur de ce signe de parodie que le latin paraît le plus souvent. Et donc, la parodie est encore plus soulignée.
Et elle est incarnée par ce personnage dont vous avez parlé.
Le vieil unijambiste.
Unijambiste, qu'on surnomme Triple Patte.
Exactement.
C'est un pirate érudit, entre guillemets, latiniste, un peu comme vous, Marc Baratin. Mais lui, pour le coup, il incarne vraiment l'intellectuel un peu charlatan.
Exactement. Et donc, la langue est parodiée. Parce que, en fait, le latin apparaît comme une source de formules sentencieuses, de vérités premières, d'expressions toutes faites, de proverbes inutiles qui sont donc énoncés tout au fil. Et en fait, ça n'est pas apparu tout de suite dans la série. Au début, manifestement, Goscinny cherche un peu l'usage qu'il peut faire du latin. Il en fait d'abord un usage de pure couleur locale, assez soutenu, beaucoup d'éléments au début, oui, qui apparaissent à titre de couleur locale. Et puis, progressivement, il trouve l'usage qu'il peut faire du latin, qui est donc cet usage parodique. Alors, langue de la pédanterie, c'est compliqué parce que le latin, c'est effectivement la langue qu'en principe maîtrisent les bons élèves. Mmh. Et donc, il y a dans la dimension parodique un aspect, en effet, de moquerie. Mais ça ne fonctionne pas comme ça, absolument toujours. Chez Astérix, c'est quelquefois, le latin n'est pas traduit. Mmh. Ce qui est tout à fait intéressant, ce qui est un signe, une sorte d'invitation pour les lecteurs
d'aller chercher,
à
peut-être.
Aller chercher, oui. Et qui montre aussi que le latin peut être un signe de distinction aussi. Fondamentalement, c'est une langue parodiée. Ça sert aux comiques de la série. Mais c'est pas uniquement cela.
C'est plus subtil que ça.
Je pense.
Vous avez remarqué que René Goscinny, il prend parfois quelques libertés avec ce latin classique. Vous donnez un exemple très précis. Par exemple, dans le tome 4, Astérix, Gladiateur, Obélix demande à Astérix comment le mot sanglier se dit en latin.
Oui, c'est un passage d'une très grande étrangeté parce que, donc, Obélix demande à Astérix comment on dit sanglier en latin. Et Astérix, sans la moindre hésitation, ce qui prouve qu'Astérix maîtrise des éléments de latin au moins, Astérix lui répond que ça se dit « porcus singularis ».
Sauf que cette formule, c'est pas du vrai latin.
Alors, ça n'est ni la façon dont on disait sanglier en latin dans l'Antiquité, ça se disait « aper ».
Donc rien à voir.
Voilà. Ça a une structure de latin savant. Enfin, vous savez, les mots, la façon de désigner les plantes et les animaux de façon savante, on utilise du latin sous forme de système à deux noms. Un nom pour le genre, un nom pour l'espèce. Mais le sanglier, dans cette langue savante, se dit « sus scrofa », ce qui n'a absolument rien à voir non plus. Et donc, ça a un aspect de latin savant, mais ça n'en est pas non plus. Alors, je me suis demandé effectivement d'où ça sortait. Et en réalité, c'est encore une parodie, mais vraisemblablement une parodie du latin savant. C'est-à-dire que je pense que Goscinny est allé chercher dans un dictionnaire étymologique d'où venait sanglier. Et il a trouvé que, assez curieusement, ça venait du mot « singularis », qui est le mot qui a donné singulier, hein, tout simplement, et qui signifie « solitaire ». Parce que, en latin tardif, à basse époque, on a cessé de dire « aper », qui était le mot classique, pour désigner le sanglier d'une autre façon comme étant l'animal qui vivait solitaire. Et donc, dans le dictionnaire étymologique, l'étymologie de sanglier, c'est singularis, mais on ajoute, pour comprendre, singularis porcus.
Pour que ce soit plus clair.
C'est donc le solitaire, mais en tant que cochon, bien sûr. Et, assez curieusement, Goscinny récupère la formule, lui redonne l'aspect de forme savante en deux mots, en commençant par le genre porcus et en continuant par l'espèce singularis, et il le présente donc de cette façon-là. Donc, il me semble, ça doit être en effet une assez curieuse et, dans le fond, assez recherchée parodie du latin savant. Alors, ce fameux latin savant, il a été créé, en quelque sorte, de toute pièce, au XVIIIe siècle, par le naturaliste suédois Linné.
Oui, bien plus tard que le latin classique.
Et donc, Linné a fabriqué ces formules à deux termes, qui désignent les plantes et les animaux sous forme savante, avec des mots latins, mais quelquefois qu'il a inventé lui-même. Mmh. Et donc, c'est un latin qui n'a effectivement pas grand-chose à voir avec le latin de l'Antiquité.
Par exemple, pour désigner le figuier, sous cette dénomination de latin savant, on va dire ficus carica. Voilà, je suis sûre que les auditeurs sont tombés sur plein d'autres dénominations de ce genre. Donc en fait, Goscinny, il a fait un peu sa petite tambouille et il invoque plutôt la classification botaniste de Linné, dont vous venez de parler, plutôt que le latin classique. Mais bien sûr, tout ça, Goscinny, il ne le sait pas vraiment. C'est un peu involontaire de sa part parce qu'il dit qu'il n'a jamais vraiment fait de latin.
Oui, alors c'est ce qu'il dit, mais c'est toujours la même chose.
Ouais, à vérifier. Est-ce qu'on peut savoir s'il a vraiment fait du...
Bien. Si vous voulez, si j'ai bien compris, il a fait ses études secondaires au lycée français de Buenos Aires. Et donc la question se pose, c'est savoir s'il y avait des classes de moderne...
obligatoire de latin.
Dans ces années-là, au lycée français de Buenos Aires. Il n'est pas invraisemblable qu'il ait quand même fait un peu de latin. Pas beaucoup, mais il a dû en faire quand même. Mais c'est une coquetterie de dire qu'il n'a pas fait de latin, en tout cas.
En tout cas, pour Astérix, pour toutes ces références et citations latines qui distillent au fil des épisodes, il ne s'est jamais caché qu'il allait voir dans les fameuse page rose du dictionnaire. Oui. Racontez-nous un petit peu cette méthodologie.
Alors, les pages roses du dictionnaire, ça a toujours existé dans le dictionnaire Larousse. C'est un moyen que Larousse avait inventé pour séparer les noms communs des noms propres. Donc, vous avez des pages d'une couleur différente, qui étaient des pages donc roses, et qui montraient de façon très claire que l'on avait, selon qu'on avait à chercher dans les noms communs ou dans les noms propres. Et donc, vous avez cette séparation. Et dans ces pages roses, il avait mis effectivement un recueil de formules latines, parce que la littérature latine, qui a duré plusieurs siècles, est pleine de formules bien connues, duralex, sedlex, qui sont des formules de droit, ou le tucoquemiphili, qui est effectivement une formule de César, et toutes sortes de formules qui étaient regroupées de cette façon-là, avec leur sens en français.
Et dans Astérix, il y a quelques citations latines qui reviennent très souvent dans la bouche de Jules César. Une de celles qui revient le plus souvent, c'est la formule « alea jacta est », ce qu'on peut traduire par « les dés sont jetés ». C'est le vrai César qui aurait prononcé pour la première fois cette formule. C'est vrai, ça ?
Alors, pas pour la première fois, hein, parce que la formule devait être assez classique. Ça veut dire le destin est scellé. Voilà. Et donc, il aurait prononcé cette formule au moment de franchir le Rubicon en 49. En
janvier 49,
c'est ça. Et donc, c'est une rivière qui séparait la Cisalpine du domaine de l'Ourps. Et il était absolument interdit de le franchir avec des troupes, quelles qu'elles soient et quel que soit leur nombre, sans l'autorisation du Sénat. Et le Sénat n'avait pas donné son autorisation, avait refusé son autorisation à César. Ce qui, à l'époque, mettait César en fait en danger. Et donc, César choisit de sauter le pas, de tenter le destin, et soit de trouver le déshonneur et vraisemblablement la mort, soit le pouvoir et la gloire. Donc, il décide de tenter le coup.
De ne pas écouter le Sénat, mais le coup est gagnant.
Le coup est gagnant. Alors, l'a-t-il réellement prononcé? On ne sait pas, mais disons qu'en tout cas, ça aurait été parfaitement en situation à ce moment-là.
Mmh. En tout cas, l'expression « aléa », voilà, qui signifie « dé », le hasard, c'est en ça. Français, a donné notamment « aléatoire » en français. Alors, il y a une autre expression célébrissime qu'on retrouve dans la BD, qui est aussi prononcée par Jules César. « Veni, vidi oui. » Vichy ?
Vicky.
Vicky.
Wiki, plus exactement. Ah,
d'ailleurs. Wiki.
Winnie, Widi, Wiki.
Je suis venu, j'ai vu, oui. J'ai vaincu.
Et là qu'il prononce bien plus tard, en 47, parce qu'il se porte vers le royaume de Pharnace II, qui était roi du pont.
Un roi adversaire.
C'est ça, et qui voulait récupérer des domaines qui lui avaient été confisqués. Et donc, César se présente et en une seule bataille, pulvérise littéralement les troupes de Pharnace. Et donc, la rapidité, littéralement, de l'éclair de cette campagne fait qu'il écrit apparemment, d'après ce qu'il raconte, il écrit au Sénat « Veni, vidi, vici » à ce moment-là. La formule est effectivement extrêmement efficace du
laconique,
point de vue rhétorique.
Pas voilà. De mot de liaison.
Exactement.
C'est ce qu'on appelle une parataxe.
Une pure juxtaposition qui montre, si vous voulez, l'homme d'action.
Alors, il y a une dernière citation que vous avez citée tout à l'heure, qui est encore prononcée par Jules César. Tu quoque mi fili.
Tu quoque mi fili.
Voilà, vous le dites beaucoup mieux que moi. Toi aussi, mon fils, en français. Donc, César prononce cette phrase à son fils adoptif, Brutus au moment où César meurt. Qu'est-ce que cette phrase mystérieuse signifie ?
Alors, en fait, César s'adresse en effet à Brutus, qu'il considérait, dit-on, comme un fils, hein, c'est plus large. Mm-hmm. Et donc la formule n'a absolument rien de sentimental, comme on peut le penser, hein, ça n'est pas du tout la formule d'un homme qui voit que même celui qu'il considérait comme son fils veut le tuer et qu'il est tout à fait navré de cette situation. C'est plutôt de façon très méditerranéenne, au moment où on l'assassine, sous forme de malédiction, il renvoie à celui qui lui fait du mal. En fait, il lui affirme que lui aussi subira le sort qu'il lui fait subir. Ça veut dire, au moment où il a quand même de la ferraille dans le ventre, il trouve l'énergie de maudire celui qui l'assassine en lui disant que lui aussi subira la même chose.
Alors, ces expressions latines, elles apparaissent de manière assez sporadique dans Astérix. Qu'est-ce qu'il en était dans la Gaule d'alors ? Est-ce que le latin était plus diffusé que dans la BD ? Est-ce que les Gaulois parlaient latin ?
Alors, pas tous, bien sûr. Hein, les Gaulois parlaient gaulois. Mais la présence romaine, en fait, s'est imposée certainement assez rapidement. Mmh. C'est-à-dire que le gaulois va encore demeurer de façon plus ou moins étendue pendant 3-4 siècles, un peu plus peut-être, mais disparaître au bout d'un certain temps. En français actuel, il reste à peu près 150 mots d'usage courant qui nous viennent directement du gaulois, des choses tout à fait surprenantes comme ruche, mouton, bouc, charpente, chemin, crème, truand, bercé, tout ça, ce sont des mots d'origine gauloise.
Ah oui.
Même quelquefois, d'ailleurs, de façon beaucoup plus surprenante encore, comme c'est peut-être avéré bagnole.
D'accord.
Qui signifie en fait petite caisse. Ce qui est en réalité assez curieux, parce qu'on dit aujourd'hui encore une caisse pour désigner un véhicule, et bagnole désigner une petite caisse. C'est assez surprenant. Et vous avez aussi un certain nombre, alors là, beaucoup plus de noms propres, comme Autun, Châteaudun, Verdun, tous les mots en dun, comme ça.
D'accord.
Mais la Marne, la Seine, l'Oise, sont des noms d'origine gauloise.
Donc, un héritage linguistique des Gaulois.
Onomastique.
Onomastique.
Il ne reste que quelques noms communs, 150 noms communs à peu près, plus un bon millier de noms propres au moins. Mais à part cela, non, le Gaulois a vraiment disparu. Et puis, malheureusement, il était très peu écrit. Mmh. Donc, on a des inscriptions, mais... Enfin, c'est dommage, d'ailleurs, qu'on n'ait pas davantage de traces écrites.
Mais alors, au-delà des mots, on a d'autres choses dont on a hérité des Gaulois. Oui. Je crois que c'est à eux qu'on doit la charcuterie.
Alors, en
c'est
tout,
vrai, ça
En tout cas, la charcuterie gauloise était très, très appréciée à Rome.
Oui.
Mais ils ont effectivement la réputation d'avoir inventé la charcuterie, au moins sous sa forme la plus élaborée, et le tonneau.
Le tonneau où l'on conservait les boissons, le vin.
Le vin. Parce que, si vous voulez, si vous gardez du vin dans des jarres, ce que l'on faisait avant, le niveau alcoolique monte, comme il est normal, hein, le niveau alcoolique monte jusqu'à 23-24 degrés, mais se stabilise là. Et donc, quand vous buvez du vin, vous êtes obligé de le couper d'eau. Sans ça, si vous voulez, au deuxième verre, vous n'êtes plus guère en état. Et c'est pour ça que dans les banquets romains, on coupait toujours le vin avec de l'eau. Mais si vous gardez du vin dans des tonneaux en bois, arrivé à 23-24 degrés, le vin, à ce moment-là, rebaisse en degrés pour se stabiliser autour de 13. Et là, c'est du vin. Mmh. C'est vraiment du vin. Et c'est meilleur.
Et ça a été repris par les Romains.
Alors, au bout d'un certain temps, ils ont dû s'apercevoir que la technique des Gaulois était meilleure. Mais c'est une preuve d'ailleurs, ces éléments, des capacités techniques des Gaulois qui étaient certainement assez grandes. Il faut avoir l'idée d'une région, la Gaule celtique, où vous avez des routes, vous avez des agglomérations constituées, vous avez toute une organisation sociale qui est tout à fait au point. C'est des gens cultivés.
Hein. Mm-hmm.
Bien sûr. Et donc, c'était aussi, comme vous avez précisément des routes, vous avez une activité commerciale, vous avez beaucoup de production en tout genre. C'est une région riche. Et du coup, évidemment, c'était aussi un élément pour intéresser quelqu'un comme César, qui visait à la fois une image de conquérant, en conquérant la Gaule, qui visait un enrichissement parce que la région est riche, hein, et qui également visait, du point de vue géopolitique, la création d'une sorte de zone tampon par rapport aux Germains, qui étaient alors beaucoup craints.
Alors, à propos de César, justement, il est beaucoup tourné en dérision dans la série. Il parle de lui à la troisième personne. Ça, c'est de la fiction ? C'est Goscinny qui se moque de César ? Ou c'était
non,
vraiment vrai ?
Non, c'est parce que dans les commentaires de la guerre des Gaules... Enfin dans
donc, le livre, l'ouvrage écrit, rédigé en partie par Jules César.
De Bello Gallico, la guerre des Gaules. Il a l'idée littéraire absolument géniale d'écrire la guerre des Gaules, en parlant de lui à la troisième personne, parce que ça donne un ton de neutralité.
Mmh.
Alors qu'en fait, c'est un pur texte de propagande, qui est saturé de balivernes en tout genre, qui intéresse à la fois les Romains, César, qui veut montrer toujours la situation dans ce qu'elle peut avoir de plus positif pour lui. Mais à la fois, c'est extrêmement intéressant, et puis c'est un texte littéraire formidable, hein, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire comme texte. Et donc le fait de parler de lui à la troisième personne donne cette distance qui renforce l'impression d'objectivité.
Et je crois que René Goscinny a lu cet ouvrage de Jules César, Commentaire sur la guerre des Gaules. Il s'en est même inspiré pour une intrigue d'Astérix, je crois que c'est le tome 24, Astérix chez les Belges.
Il y a plusieurs passages, il y a des éléments qui sortent de la guerre des Gaules, et notamment il reprend bien sûr la formule de César qui dit que les Belges sont les plus courageux des Gaulois.
Et donc le sujet de cette BD, c'est les Gaulois et les Belges qui se disputent pardon, le titre de peuple le plus brave.
Les Belges étaient les Gaulois, hein, c'est ça.
Goscinny s'est inspiré de moments historiques qui se sont véritablement déroulés au temps de Jules César, mais la plupart du temps, il faut quand même le dire, il prend de grosses largesses avec la vérité historique. En fait, Goscinny, il ne parle pas tant de la Gaule que ça, plutôt de la France de son temps, de la France des années 60.
Alors, c'est vraisemblablement ce qui a fait le succès de la série, c'est qu'il, dans le fond, il ne parle pas des Gaulois, dont il n'a pas grand-chose à faire dans le fond. Ce qui l'intéresse effectivement, c'est la France de son temps et la façon dont la France de son temps voit la Gaule. Et c'est ça surtout qui l'intéresse, mais si on se replonge dans la France gaulliste, Astérix est un texte extrêmement amusant à lire parce que, si vous voulez, Goscinny synthétise deux dimensions du gaullisme qui se situent à des dates complètement différentes, mais que Goscinny réunit, et qui sont d'une part la résistance, d'autre part la possession de l'arme absolue, la bombe atomique, qui se retrouve chez Astérix sous la forme de la potion magique. D'ailleurs, il ne vous aura pas échappé que la potion magique dépend entièrement d'un vieil homme providentiel qui est le seul à en avoir la recette.
Qu'on peut comparer à De Gaulle,
exactement.
En effet.
Et donc, ce sont des aspects qui ne peuvent pas ne pas attirer l'attention, alors que, en effet, comme vous le disiez, il y a des inexactitudes absolument énormes par rapport à la réalité, mais dont, encore une fois, Goscinny ne s'intéressait pas énormément à cela. Le fait, par exemple, qu'il y ait des livreurs de menhirs à l'intérieur de cette population gauloise, alors que les menhirs n'étaient plus installés depuis plusieurs siècles, à l'époque, est tout à fait caractéristique. De même, par exemple, le fait que le chef à bras raccourci se trouve toujours sur un bouclier, alors que c'est une coutume franque qui apparaîtra plusieurs siècles après. Mais c'est, si vous voulez, c'est une image. Il produit une image qui est somme toute assez cohérente avec ce qui était la représentation extrêmement vague
du monde romain.
Du monde gallo-romain, et qui souligne effectivement le fait que les Gaulois sont querelleurs, ce qui était leur réputation, et qui est une réputation que l'on attribue encore aux Français, quelquefois au plus haut niveau, où on revient perpétuellement sur cette histoire de Gaulois querelleurs, qui est une façon d'essayer de ranimer perpétuellement le même cliché.
Et je voulais revenir sur les clins d'œil, les références que Goscinny peut faire à la fois à la bombe atomique à travers la potion magique et puis résistance à l'occupant romain qu'on peut associer à la référence à l'occupation de 1942. Si on regarde le synopsis du premier Astérix, Astérix le Gaulois, la première case du synopsis, donc ce qui n'apparaît pas dans la bande dessinée, mais ce que Goscinny écrit avant, il écrit, pour décrire la case, la toute première case de la BD, on peut voir, donc là je cite ce qu'écrit Goscinny, des soldats romains marchant en rang, on peut ne voir que leurs jambes, comme dans les documentaires montrant les Allemands entrant en France. Donc en fait, il fait une référence directe à la Seconde Guerre mondiale et à l'occupation de 1942. Donc vous avez totalement raison. certains albums d'Astérix ont été traduits en latin. Oui. Est-ce que vous les avez lus, Marc Baratin ?
Non, je veux dire. Non, effectivement, mais je devrais.
Et beaucoup, il n'y en a pas qu'un seul, mais certaines, beaucoup d'albums ont été traduits en latin. Vous, vous étiez très jeune lorsque les premiers albums d'Astérix sont sortis, Marc Baratin. Est-ce que c'est à travers ces albums que votre intérêt pour le monde romain s'est manifesté pour la première fois ?
Non. À vrai dire, non, mais j'ai découvert Astérix, je ne sais plus trop à quelle époque d'ailleurs, mais avec beaucoup d'amusement en tout cas.
Écoutez, merci beaucoup à vous, Marc Baratin, pour cette mise en bouche, parce que vous participerez à l'hommage à René Goscinny samedi 14 mars prochain à l'auditorium de l'Institut de France. Le programme complet est disponible sur le site de l'Institut. Pour les auditeurs intéressés, n'hésitez pas à vous inscrire, c'est gratuit. Et seront présents d'autres grands noms de la bande dessinée. Il y aura Catherine Meurice, Emmanuel Guibert, la fille de René Goscinny, Anne Goscinny sera également présente. Voilà. On mettra le lien sur la page de l'émission. Et merci à vous, Marc Baratin.
Merci à vous.
Les podcasts de l'Institut de France.